Chers amis, la suite de notre étude sur l'amour inconditionnel de Jésus-Christ, c'est les 6 peurs de l'appeler. Il y a 6 principales peurs que celui et celle que le Seigneur appelle pour une tâche, une mission quelconque, soit dans l'église où la personne se trouve, ou simplement en dehors également, eh bien, il y a 6 peurs principales que nous allons essayer de voir ensemble. Celui que le Christ appelle est susceptible de passer par l'une ou l'autre de ces 6 émotions, ou bien, parfois même, par les 6 à la fois. La Bible est à ce sujet pleine de situations tragicomiques, ou si l'on veut, cocasses en même temps que sublimes. L'homme, surpris par le « viens et suis-moi », s'en tire par l'une ou l'autre de ces façons maladroites. Voyons voir la première de ces peurs épouvantables. On dira par exemple « je ne suis pas libre » car j'ai déjà fait mon programme, je suis suroccupé et évidemment la place est prise. Il existe un superbe tableau appelé « La vocation de Saint Matthieu ». On y voit à l'extrémité droite Jésus entrant avec l'apôtre Pierre dans le bureau de douane de Capernaum, une pièce sombre dans laquelle il apporte la lumière de son visage. Dans un geste saisissant, de son bras droit tendu, il pointe résolument l'index en direction d'un groupe de personnages qu'il dérange manifestement dans leurs besoins. 3 ont levé le nez et regardent le Seigneur d'un air énigmatique. L'un d'eux, comme un relais, désigne à l'autre bout de la table une forme encore dans l'ombre et qui n'a pas bougé. C'est un jeune élégamment vêtu qui compte âprement ses sous, surplombé par un homme plus âgé qui semble le pousser au calcul, comme si le compte n'était pas bon. C'est un tableau assez remarquablement expressif. Aussi, cher ami, ce tableau, le sujet de ce tableau, cela pourrait être toi ou moi. Histoire, donc, qui pourrait être la nôtre. Car dans l'Évangile, on voit le maître de la vigne sortant d'heure en heure sur la place, et ceci pour embaucher des chômeurs. Mais, vois-tu, ce ne sont pas des chômeurs professionnels, ce sont des désœuvrés spirituels et qui gaspillent le temps de la charité, du travail apostolique, du progrès dans la vie intérieure. En général, le « vient » tombe sur un homme ou une femme déjà accaparé par son souci quotidien, comme Amos, avec ses bœufs et ses sycomores. Tu peux le voir dans Amos, chapitre 7, verset 14. Et quand le père de famille, dans l'Évangile, invite ses amis à un bon repas, il reçoit un tas de réponses décevantes du type « Oh, je suis désolé, je suis navré, comme les Anglais, les Américains disent « I am sorry ». Navré, mon cher, mais figurez-vous il dira encore ou elle dira encore, figurez-vous, ça tombe très mal aujourd'hui. Justement, j'ai à faire quelque chose qui ne peut absolument pas attendre. Mille excuses et merci quand même. C'est du reste gentil de votre part. À une prochaine fois, peut-être. L'un a acheté un champ et veut, les mains dans le dos, faire le tour du propriétaire satisfait. L'autre vient d'acquérir 5 paires de bœufs et désire essayer ses tracteurs anciens modèles. L'autre, enfin, a dans ses bras sa jeune épouse et, bien sûr, pour lui et pour elle, plus rien ne compte, car les amoureux sont seuls au monde. Note bien que toutes ces occupations sont morales et excellentes. Pourtant, celui qui a lancé les invitations prend ses refus pour de la goujaterie, de la muflerie, parce que on ne met rien en balance avec l'appel à la joie, parce que le oui à l'amour ne peut se reporter, se différer à plus tard. Vois-tu dans le monde le carton que l'on reçoit pour un repas de mariage comporte en bas cette fameuse mention « Répondre s'il vous plaît avant telle date ». La parole de Dieu, elle, ne prévoit pas l'impossibilité. Elle prime tout autre devoir. On imagine mal Marie répondre à l'ange Gabriel « Oh, je suis désolé, cher archange, je suis déjà engagé avec mon Joseph. Mais vous trouverez sûrement dans le village une jeune fille qui est libre et qui sera certainement très flattée de votre proposition. » Deuxièmement, nous avons l'excuse suivante. Je ne saurais pas faire. Ça, c'est aussi une peur. Ici, on se retranche derrière l'incompétence avec un faux semblant d'humilité qui cache mal un manque d'envie ou une peur panique. C'est le cas de Moïse devant le buisson ardent, sommé par Yahvé d'aller trouver le Pharaon pour lui intimer l'ordre de laisser partir Israël, donc de se priver d'une main-d'œuvre étrangère précieuse et presque gratuite, il se débat de toutes ses forces pour échapper à cette redoutable corvée. Tous les arguments vont donc défiler. Qui suis-je, moi, pour aller trouver ce puissant pharaon? Et puis, je ne peux pas dire que je suis doué, surtout pas. Je ne suis pas doué du tout pour la parole, et tu le sais, ni d'hier et ni d'avant-hier, car ma bouche et ma langue sont vraiment pesantes. Enfin, je crois que mon frère Aaron, le prêtre, est bien plus doué que moi pour l'élocution. Toute chose que le Seigneur sait fort bien, reste encore quelques petites manœuvres de retardement. Mais, Seigneur, supposons que Pharaon me demande « C'est de la part de qui ?» Exode chapitre 3, verset 13. On peut dire qu'on aura rarement vu pareille mauvaise volonté. Et il faut avouer que la mission était audacieuse. La même chose se produit avec Jérémie. Dieu ne lui demande même pas son avis. Il lui apprend que sa vocation est décidée depuis le sein de sa mère et qu'il est déjà établi prophète. Alors Jérémie fait lui aussi, il essaie lui aussi un état de difficulté d'élocution. Et ceci pour étayer ses dires, il émet même une sorte de bégayement, un hoquet de nourrisson. Et ceci pour convaincre Yahvé qu'il s'est trompé de porte. Je crois que on peut presque sourire, parce que Yahvé l'Éternel, évidemment, il a su d'avance toutes ces arguments fabuleuses. Mais ce n'est pas d'abord une malformation chez notre ami Jérémie, une malformation du gosier qui gêne notre homme. C'est plutôt de proférer une parole très difficile à dire, parce que en face, cette parole est encore plus difficile à entendre. Alors, comme pour Moïse, Yahvé répond qu'il prendra en main lui-même les opérations. Voici, j'ai placé mes paroles dans ta bouche. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10. Avec Ézéchiel, Yahvé se livre à un geste encore plus significatif. Il ne se contente pas de toucher la bouche du prophète. Il lui fait carrément avaler le rouleau écrit de sa parole. L'envoyé saura donc quoi dire et il annoncera un message qui ne sera pas de lui et qu'il aura pu assimiler. Ézéchiel s'exécute et naïvement nous donne sa première impression, car dans sa bouche, le rouleau avait le goût d'un miel délicieux. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Troisièmement, nous avons la fameuse excuse et une peur épouvantable. Mais moi, je ne suis absolument pas digne. Et avec une pareille excuse, l'homme espère bien prendre Dieu au piège de son humilité. Passe encore sur l'incompétence, mais l'insuffisance morale, qu'est-ce qu'il faut en penser? L'objection semble donc absolue. Nous avons donc là deux grands exemples dans la Bible. C'est d'abord Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8, qui dans le temple de Jérusalem, face à la gloire de Dieu, fait l'expérience de son indignité. Il dit « Malheur à moi, je suis vraiment perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. Comment donc pourrais-je parler au nom du Saint ?» Alors, un séraphin vole vers lui, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec une pince sur l'autel, et d'un coup, lui cautérise les lèvres. Voilà donc le problème résolu. Ésaïe le comprend, et sans se faire tirer l'oreille, répond généreusement à la demande divine. Me voici et envoie-moi. Il est correct, Ésaïe, on peut pas le dire. Et l'autre exemple est dans l'Évangile. Tu connais certainement la scène. Jésus prêche au bord du lac et comme la foule l'écrase, il emprunte la barque de Simon-Pierre pour prendre un peu de recul. Il parlera bien plus aisément à quelques mètres du rivage, et sa voix portera mieux. » La prédication terminée, Jésus veut remercier Simon de sa gentillesse, peut-être bougeonnante, et il lui offre une pêche inespérée, la dernière du petit matin, après l'échec de la nuit écoulée. Simon lui fait tout de même remarquer qu'il connaît son métier par cœur et qu'une nouvelle tentative est vraiment inutile. Mais il ajoute cette phrase merveilleuse, « Cependant, parce que c'est toi qui le dis, ou si, sur ta parole, je vais jeter le filet. » Voilà un acte de foi au niveau de l'attitude, même si la connaissance ne suit pas encore, mais cela viendra. Et c'est un tabac, comme on dit familièrement, au point que le succès fait craindre un naufrage, tant les barques sont surchargées. Simon ne s'y trompe pas. Ce n'est pas un simple hasard, mais c'est un coup du ciel. Et le ciel semble bien être descendu sur ce coin de terre en la personne de ce Yeshua mystérieux. Alors, tout frissonnant d'une sainte frayeur, lui, l'intrépide, se jette aux pieds du Seigneur en lui confessant « Éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Voilà le sentiment d'indignité qui, chez cet homme rude, n'a rien d'un faux semblant, ni de la politesse exquise. Ce n'est pas son genre du tout. Jésus prend acte de cette humilité virile, mais au lieu de renvoyer Simon à ses poissons, il lui propose en haute mer, dans le chalutier de l'église, une campagne de pêche, ceci d'une façon non-stop, et qui durera jusqu'à la fin du monde. C'est la pêche aux hommes, et cela par tous les temps. Non, mon cher ami, le Christ ne craint pas ton indignité du moment que tu la reconnais. Il te dit, comme à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Tu peux lire cela dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 9. Conclus donc comme l'apôtre, c'est de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. On imagine mal Marie minaudant avec l'archange Gabriel pour qu'il aille chercher plus loin une jeune fille faisant beaucoup mieux l'affaire. Tu me diras qu'elle était née sans péché, ce qui est vrai. N'empêche que la plus sainte des créatures pouvait s'effaroucher. Elle pouvait être un peu surprise à la perspective de devenir la mère du Fils de Dieu, surtout dans un enfantement quand même exceptionnel que l'opinion comprendrait assez mal. Marie se contente de rappeler qu'elle est bel et bien vierge. Et comme le messager la rassure à ce propos, elle acquiesce sans retard. À votre service, monsieur l'archange, comme vous voudrez. Or, ce n'était alors pas évident du tout. Quatrièmement, nous avons la fameuse peur. Oh, je ne vois pas où ça va me mener, tout cela. Eh bien, ici, l'homme passe à l'attaque. Les difficultés ne sont pas de son côté, mais du côté de Dieu, dont les offres manquent de la plus élémentaire précision. On veut bien croire, mais quand même, faut-il pour cela se réduire à l'état de vagabondage? De fait, aujourd'hui, dans les écoles bibliques et les congrégations, nous voyons très bien les jeunes proposés parfois à leurs responsables, qui ont pu le leur demander d'ailleurs, ce qu'on appelle un projet de vie. L'intéressé ne dit pas seulement ses aspirations profondes, ce qui serait normal. Il lui arrive de se donner un profil de carrière, ou bien de manifester une obéissance sous condition, une obéissance liée. Il est donc nécessaire, en tenant compte des charismes de chacun, de prévoir son premier créneau apostolique, et ceci pour les années immédiates. Mais cela ne veut pas dire que cela durera toute la vie et obligatoirement. Par exemple, Abraham n'a pas demandé à Yahvé une carte Michelin pour repérer les points d'eau douce entre la ville d'Ur et le chêne de Mambré, comme dans le Paris-Dakar. Et Marie n'a pas réclamé à Gabriel un mémento complet pour Mère de Dieu, afin de savoir quoi faire en cas de fuite en Égypte. Dans un magnifique chapitre sur la foi dans la Bible, il y a la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 8. Et là, nous voyons que Abraham, il est parti. Il est vraiment parti, et du reste même sans savoir où il allait. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la foi. Cinquièmement, nous avons la peur suivante, et nous allons donc évidemment prendre cette excuse. Au fond, je n'ai pas de garantie humaine suffisante. Eh bien, ici, c'est à l'apôtre Pierre, marchant sur les eaux, qu'il faut songer. Vous pouvez voir cela dans Saint Matthieu, chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 36. Rappelle-toi un peu la scène. Les apôtres sont engagés dans une série noire. D'abord, Jésus a refusé net d'accéder à leurs désirs en acceptant le titre de chef après avoir multiplié les pains. Et il a, pense-t-il, gâché une occasion unique qui ne se représentera sans doute plus jamais. C'est un rêveur doublé d'un têtu qui les a obligés à s'embarquer séance tenante parce que, disait-il, le miracle leur montait à la tête. Et les douze, dans leur bateau, de grommeler, de murmurer entre leurs dents contre cet obstiné qui plane. Et ceci pour corser une situation déjà très peu brillante. Voici que la tempête se lève sur le lac et en pleine nuit, ce qui, croyez-moi, n'a rien de rassurant. Jésus, lui, a congédié la foule après l'avoir calmée, et il s'est mis en prière. Et dans cette oraison nocturne, il voit ses amis qui s'épuisent à ramer. Or, dans une prière, on voit bien des choses, nous dit l'apôtre Marc. Alors il vient à leur rencontre sur les flots pour les tirer d'un très mauvais pas. Mais, au lieu de les rassurer, il ne réussit qu'à les effrayer davantage par ses allures, on peut dire presque de fantômes. Et les voici qui se mettent à hurler de frayeur. Alors le Seigneur les rassure en leur criant « Mais c'est moi, n'ayez pas peur !» Et sur quoi l'apôtre Pierre, un homme très pratique qui aime bien vérifier les choses avant d'y croire, réplique de toute sa voix dans la tempête « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux !» Parole étonnante, où se mélangent le doute et la foi. Et Jésus, une fois de plus, de calmer le petit mot capital, à la fois impérieux et réconfortant, vient sur cette parole fondamentale qui lui rappelle sa vocation. L'apôtre met un pied hors de la barque. Ah, formidable, ça tient. Puis le second, ça a l'air de tenir encore. Alors, disait un prédicateur qui était plein d'humour, là, tout à coup, il se met à penser. Voyons, si ma belle-mère me voyait. Et aussitôt, il enfonce. Un hurlement, car il savait pas nager. « Seigneur, viens à mon secours !» Et le prenant par la main, Jésus le rétablit sur une base solide. Qu'est-ce que cela signifie, mon cher ami? Quand on doit prendre une décision importante, on fait son choix dans la prière avec quelqu'un pour vous aider. Plusieurs situations sont alors possibles. Parfois, c'est l'évidence fulgurante. Mais la plupart du temps, il faut peser le pour et le contre, donc évaluer les motifs et les conséquences. S'il ne s'agissait que d'une opération psychologique, on pourrait balancer longtemps, comme le font les indécis, ceux qui savent pas très bien s'ils veulent aller en avant ou en arrière. Rien de clair n'apparaît donc. Mais l'homme qui fait un choix n'est pas un épicier pesant une marchandise. Il lui faut carrément trancher, comme on dit, ou bien il faut conclure, c'est-à-dire clore le débat. En d'autres termes, la décision la plus motivée comporte toujours un risque. Elle représente un engagement de la liberté, non la mise en œuvre d'une mécanique. Tu peux, si tu es un garçon, recourir à l'ordinateur pour repérer toutes les filles d'un campus universitaire correspondant à un certain signalement qui te convient. La couleur des cheveux, peut-être des goûts musicaux, etc. afin de les fréquenter à tes moments de loisir. Mais quand tu te trouveras en présence de cette sélection, tu ne pourras pas aller plus loin par ce moyen pour te faire une amie véritable, à plus forte raison une future épouse. Tu devras choisir librement. L'amour est le fruit d'une rencontre et non d'une pesée, je te l'ai déjà dit. Il y faut un événement spirituel imprévisible, appelant un certain pari. Jamais tu ne solutionneras les grands problèmes de ta vie par ordinateur, d'informatique peut... Oui, l'informatique, elle peut déblayer, pourquoi pas, mais elle ne remplace pas et jamais la décision humaine. Autrement dit, le choix transcende toujours les motifs. Il n'en est pas la résultante automatique. Ce qui est vrai au plan humain l'est encore davantage avec le Christ. Tu peux éprouver pour lui un coup de foudre, même instantané. Cela ne te dispensera pas de réfléchir après coup, de mettre au point tes idées et de modifier tes mœurs. Tu peux partir aussi de l'autre bout, évaluer ce que dit l'Évangile et en tirer les conséquences pour toi, moyennant un difficile débat avec toi-même. Mais ta décision finale sera beaucoup plus que le fruit d'une discussion intime au sujet de ce qu'il faut penser et faire. Elle sera l'engagement de ta liberté envers une personne, non pas un coup de pouce sur un des plateaux de la balance pour qu'il pèse plus lourd que l'autre en matière de motifs, mais un acte venant de toi. Pas un acte téméraire ou stupide, mais une option personnelle qui se prend sans se déduire mécaniquement. Bref, tu as des raisons de croire, mais tu ne crois pas pour des raisons. Tu accueilles une grâce qui descend d'en haut et tu y réponds de tout ton être. Il en va de même dans le choix d'une vocation. C'est là une chose d'importance qui ne s'improvise certes pas si tu ne te posais pas assez de questions. D'autres t'en poseraient de toute manière, car tu n'es pas seul à décider. Pourtant, ce qui seul peut l'emporter en toi, c'est le vient de Jésus. Dans cette parole se trouve l'élément décisif, et cela, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre quand on sort de la barque. On a toujours l'impression qu'on va marcher sur l'eau, c'est-à-dire sur un élément qui ne porte pas. Et c'est vrai, le flot des motifs les plus abondants et les plus étudiés demeure toujours du liquide. Aussi ne devons-nous pas regarder nos pieds, mais tendre l'oreille à la voix qui a dit « Viens ». car elle seule est consistante. C'est la voix de celui qui est l'Amen, c'est-à-dire le roc. Amen signifie à peu près « c'est du costaud », non pas du sable mouvant, mais du rocher. On peut bâtir sa vie, même sa maison là-dessus. N'empêche qu'il y a quand même un moment difficile à passer, une appréhension à surmonter. Car suivre Jésus, c'est pour toi sans danger de mort, mais pas sans risque de vie supérieure. Au départ, cela exige un acte de foi, et ceci en sa personne, en Jésus-Christ, un acte qui nous coûtera toujours, surtout à nous les Européens, spécialistes du système de l'assurance ou de la garantie, et surtout ennemis déclarés du trapèze sans filet. Sixièmement, il vaut mieux sourire. Sixièmement, nous avons les peurs suivantes. Nous dirons « Oh, j'ai peur de recevoir des sales coups, de souffrir peut-être. » Ici, comprends bien, tout le monde ne peut pas être un casse-cou et il serait psychologiquement malsain d'aimer se faire battre, de recevoir des coups. Seulement, il y a un minimum de punch nécessaire pour nous autres, pour toi comme pour moi. Et surtout, c'est là que je veux en venir. On ne doit pas s'illusionner sur les difficultés de la vie chrétienne et simplement dire « je suis trop fatigué, ça me dit rien, je crois bien que je veux changer de métier, je veux me trouver autre chose, afin de pleurnicher, de se lamenter. » Vois-tu, cher ami, nous sortons d'années de crise, ça c'est vrai, où fréquemment les chrétiens disent, avec une sorte de mou risible, « je suis en malaise ou en maladie ». Bien avant cette période déjà, un pasteur éducateur disait à des jeunes en formation, non sans un solide humour, « vous avez des malaises apostoliques. » Les femmes aussi ont des malaises, mais cela ne les empêche pas de faire des enfants. Curieuse époque que nous vivons. Nous acclamons les prophètes, certains du moins, ceux qui visent en face, pas dans notre direction. Question de balistique, évidemment. Et nous gémissons du traitement que les hommes leur infligent. Certes, les méchants ont tort de malmener les prophètes, et nous devons prendre la défense de ceux-ci avant qu'on leur ait réservé un mauvais coup. Jérémie, lui, n'était pas trop bien vu, il faut le dire. Mais au fond de la citerne, dans la vase nauséabonde, on lui réservait encore d'autres désagréments. « Malheur à vous, disait Jésus, quand tous les hommes diront du bien de vous. » C'est donc pas évident que quand on dit du bien de nous, que c'est forcément quelque chose qui va plaire au Seigneur. Et c'est de cette manière, en effet, qu'on traitait jadis les faux prophètes. Les martyrs ont moins besoin de nos indignations que de notre imitation. Et c'est ce que disait Jésus aux femmes juives venues sur le chemin du calvaire pour lui apporter quelques réconforts. et qui se lamentait sur son très triste sort. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez surtout sur vous-même et sur vos enfants. » Suivre le Christ mène donc au portement de sa croix. Le Seigneur n'a pris personne en traître. Il importe cependant de ne pas se leurrer sur la souffrance qui nous attend. Ce n'est pas quelque chose de gratifiant qui nous mettra en valeur, comme dans l'héroïsme. Jésus n'est pas mort de cette façon-là, avec le panache. C'est une infamie, un martyr de l'honneur. C'est donc aussi la tentation de rougir de l'Évangile. Tu peux voir cela dans Romains chapitre 1, verset 16. Et ceci, attention, pour ne pas perdre la face. Jésus a sur ce point-là des paroles assez dures. « Celui qui aura rougi de moi, dit-il, et de mes paroles, de celui-là, le Fils de l'homme, rougira aussi lorsque viendra le moment où tu vas venir, que je vais venir dans sa gloire. Je répète, celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, de celui-là, le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, rougira aussi lorsqu'il viendra dans sa gloire. Note bien Saint Luc chapitre 9, verset 26. Donc, n'imagine pas d'abord une situation extrême comme le martyr. Pense à toutes les occasions où devant les copains, tu es tenté de te dégonfler, de cacher tout simplement que tu es chrétien parce que tu penses chrétiennement sur un point chaud de l'actualité. Et ceci à cause du « qu'en dira-t-on ? » C'est toujours ce « qu'en dira-t-on ? » qui nous fait peur. Notre orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Dans les années 30, là, il y en avait un qui n'avait pas d'orgueil. Alors que le nazisme allait submerger l'Europe, un pasteur luthérien allemand écrivit un petit livre qui a pour titre « Nachfolge ». Nous dirons en français « Suivre le Christ ». Le traducteur l'a intitulé « Le prix de la grâce ». Et dans cet ouvrage, Dietrich Bonhoeffer nous parle effectivement de la grâce à bon marché et de la grâce qui va coûter quelque chose. Car pour lui, la première est celle du chrétien qui se dit croyant auditeur de la parole de Dieu. Ce qui n'est déjà pas mal, d'accord. Mais des temps viennent où le Christ réclame des disciples, ça c'est tout autre chose, c'est-à-dire des gens qui lui emboîtent le pas, qui entreprennent une démarche très dangereuse. Dietrich Bonhoeffer a été exécuté en 1945. Il a été pendu par Hitler à un croc de boucher, et ceci dans une prison berlinoise. C'est un écrivain profond et même un musicien. Il est mort sereinement. Il avait seulement 40 ans. Il avait fondé une communauté et écrit pour elle une merveilleuse règle de vie. Il n'avait pas gâché sa courte existence, car son maître mot était « Nachfolge », suivre Christ. Mais je ne veux pas finir sur une note de crainte. Rappelle-toi dans l'Évangile, Jésus ne cesse jamais de dire aux apôtres « Ne craignez pas ». Harcelé par le démon durant certaines nuits, Jean-Marie Vianney disait ceci « Je crois que c'est le diable qui me tourmente, car j'ai vraiment peur. » Or, voyez-vous, Dieu, lui, ne fait pas peur, je pense que tu es d'accord. Et c'est une merveilleuse lucidité, non? Seulement, il faut regarder le problème bien en face. Se colléter avec lui une bonne foi, comme pour la prière. Pour la prière, il faut franchir le mur du son, le mur de l'impossible ou de l'apparemment impossible. Alors même que tu luttes avec Dieu dans la nuit, dis-lui avec entêtement, « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Tu peux le trouver cela dans la Genèse, chapitre 32, verset 27. « Quand poindra l'aurore, tu auras dépassé un seuil pour toujours. Tu seras au-delà de ta peur. Il y a là un barrage à forcer. » Dis donc au Seigneur, avec le psaume 18, verset 30, « Avec toi, Seigneur, je force l'enceinte. Avec mon Dieu, je saute la muraille. » Je suppose que tu n'es pas un naïf, j'en suis même certain. Pas question d'imaginer la vie chrétienne d'une façon fleur bleue, comme une promenade dans les bois à la fraîche, la main dans la main avec un Jésus d'opérette et aux yeux langoureux. Seuls quelques Européens tranquilles pourraient se faire de telles idées, et encore, pas pour longtemps. Peut-être redoutes-tu l'exigence qui vient de la loi, du règlement? Alors comprends bien ceci. La loi est une réalité parfaitement rassurante. Elle vient à bout de tout ce que l'on doit faire pour être en règle et qui est très limité. Relis un peu les 10 commandements dans Exode chapitre 20, versets 3 à 17. Presque tous les commandements sont au négatif et disent ce qu'il ne faut pas faire. C'est assez reposant. Car dans ce minimum vital, qui est plutôt un minimum mortel, n'oublie pas, le plus important ne figure pas, c'est le gratuit. L'amour n'est envisagé que sous un aspect codifiable, ne pas tuer, ne pas voler. Mais quand je me borne à ne pas tuer quelqu'un, je n'ai pas encore commencé à vraiment l'aimer. C'est après que cela devient intéressant. Si Dieu n'était pas amour, ce serait moins beau, mais ce serait aussi moins fatigant. Le croyant se bornerait à lui fournir son dû en temps voulu, comme au percepteur, quantité minimale de culte et surtout un minimum de prière. Cher ami, avant de terminer cette étude, j'aimerais vraiment que tu écoutes encore ceci. Tu vois, certains ne savent pas ce qu'ils disent ils ne savent pas ce que c'est que d'aimer. Ils confondent même la liberté spirituelle avec la permissivité morale, le droit de pouvoir tout faire, aimer et faire tout ce que tu veux. Eh bien non, 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 non. Vois-tu, cher ami, si j'aime vraiment, je ne ferai pas ce que veut mon égoïsme, mais je ferai ce que veut en moi l'amour. Ma volonté coïncidera avec l'Esprit Saint, pas avec mes instincts bas. Mon « je » sera celui du Christ qui vit en moi par l'Esprit Saint. Et ne supposons pas trop vite le problème tout résolu. Si la loi peut déterminer l'exigence de façon négative, ne pas faire. Elle est incapable de dire l'exigence positive, parce que celle-ci est infinie. L'amoureux n'a jamais fini d'aimer. Il sait que les plus petites choses sont celles qui font le plus de peine ou le plus de plaisir. Tu vois, inutile d'effeuiller la marguerite. La seule façon d'aimer, c'est passionnément à la folie, ou bien alors pas du tout. Jésus, il sait cette exigence de l'amour. Plus encore, il l'a vécu jusqu'au bout. Lis cela dans Saint Jean chapitre 13, verset 1. Le Christ assène le don total sans aucun ménagement. Aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces. Oui, cher ami, tu risques et tu vas risquer et tu vas même risquer de tout pardonner, car on comprend l'effarement de l'apôtre Pierre, qui n'était pourtant pas un grand capitaliste. Dans de telles conditions, disait-il, qui donc peut se sauver? Et Jésus de lui répondre, sans rien atténuer, en fixant son regard pénétrant sur les siens, pour les hommes, c'est impossible. Mais par contre, pour Dieu, tout est possible. Saint Matthieu, chapitre 19, versets 25 à 26. Oui, Jésus-Christ est le maître de l'impossible. Et encore, c'est une des choses que nous devons absolument à notre Seigneur de n'avoir jamais peur. Quand on part en disant qu'on va faire une chose, il ne faut pas revenir sans l'avoir faite. Vois-tu, lorsque le chrétien est mu par un tel dynamisme, il s'élance au plus haut vers la vie éternelle. Ce n'est pas le laxisme qui épanouit, mais c'est l'exigence amoureuse. Sois donc prêt à payer le prix que coûte cette liberté-là. Tu penses peut-être que c'est une folie, mais pas du tout. Pourquoi y a-t-il des préceptes? Mais pour des raisons pédagogiques. Alors, quand le jet de notre amour s'incline trop bas, un clignotant orange et puis même un feu rouge s'allume comme pour nous dire « Attention, frère, attention, chère sœur, tu es en train de fossoyer ton amour. » Ces signaux-là, nous ne les rencontrons que durant la descente, quand nous sommes en perte de vitesse, voire même en chute libre. Aussi ont-ils une formulation négative. Tu ne transgresseras pas. Ils s'adressent en effet à des gens qui ont envie de transgresser, qui sont dans une dynamique d'infidélité. Et tant que tu n'as pas envie de tuer, le « tu ne tueras pas » ne te gêne absolument pas. S'il vient à te gêner, c'est que tu as vraiment envie de tuer. On ne se libère pas de la tentation en y succombant, pas du tout. On la pulvérise en aimant. Écoute encore une fois cela. On ne se libère pas de la tentation en y succombant. Mais il nous faut la pulvériser en aimant. On supprime le vertige en reprenant de l'altitude. Il n'y a ni précepte ni tentation pour qui est en train de monter. Chers amis et chères amies, nous allons terminer ici par la prière. Mais avant de prier ensemble, je voudrais te donner quelques paroles d'encouragement. Écoute bien. Attends-toi à Dieu, demeure ferme et que ton cœur se fortifie. Mets ton espoir en Yahvé l'Éternel. Donc, apprends à être patient et attendre humblement que survienne l'heure de Dieu. Celle-ci arrive toujours, même quand le secours tarde à venir. Il vient à coup sûr en son temps, et il est seul le meilleur des temps. Crois que Dieu n'apporte jamais trop tard son aide décisive, car il t'aime. Et déjà dans cette attente patiente, tu goûteras sa force qui te porte. Mais par l'impatience, par le découragement et l'incroyance, tu barrerais tout simplement la route de sa venue. Prions maintenant ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs, oui, toi qui connais nos plus secrètes pensées, tu vois quelles dispositions nous apportons à te prier, tu vois quels sont les sentiments de chacun de nous, tu vois nos besoins, nos misères, nos épreuves, nos souffrances, et tu vois si c'est avec une entière sincérité que nous désirons obtenir ton secours contre nous-mêmes et contre les difficultés de la vie qui se renouvellent sans cesse autour de nous. Seigneur, nous n'oserions mettre en doute l'étendue de ta puissance. Pourrions-nous donc de pas ajouter foi à tes promesses, à ta miséricorde? Pourrions-nous vraiment douter de ta sagesse, de la vérité de ta parole? Oh, aide-nous donc dans notre incrédulité, aide-nous dans notre langueur d'âme, aide-nous dans nos combats. Aide-nous dans la tâche que nous devons accomplir chaque jour. Fais pénétrer les vérités de ton évangile dans nos cœurs. Donne-nous cette simplicité, cette confiance qui seule dispose l'âme à entendre ta voix. Seigneur, dirige toi-même nos pensées, nos paroles, nos actions. Fais-les concourir à l'avancement de ton règne sur la terre, et que nous puissions, par ton assistance, nous édifier et nous secourir mutuellement. Bénis nos parents, nos amis, bénis tous ceux qui souffrent, soutiens-les, et que ton nom soit invoqué et glorifié à jamais. Amen. Amen. Et, mon cher ami, ma chère amie, n'oublie pas, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Et nous t'aimons également de tout notre cœur. Sois donc béni. Et merci encore pour l'intérêt que tu portes à ces messages, à ces études, et peut-être à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.